L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
. 430 King's Road, Chelsea. Nous sommes dans un magasin de vêtements au cœur d'un quartier rebelle de Londres et disons que les créations y sont particulièrement originales. Du cuir, des fouets, du latex, des bottes montantes. Nous sommes loin, très loin d'être en balade dans les quartiers chics d'une jeunesse dorée londonienne. Non. Aujourd'hui, nous allons patauger dans la boue. Le gérant vient d'ailleurs de rebaptiser la boutique. C'est la réouverture. Devant les trois grosses lettres, rose de surcroît, au-dessus de la devanture de son shop, Malcolm McLaren, 26 ans, est au bras de sa petite amie, Vivienne Westwood. Ils contemplent tous deux les lettres S-E-X de l'enseigne, qui sont maintenant à elles seules leur carte de visite. Vivienne donne un tour de clé dans la serrure et laisse entrer ses premiers clients. Peu nombreux, ça, ils s'en foutent. Eux, ils ne sont là que pour une chose. Armer stylistiquement la révolution. Il fait gris. Il bruine à Londres ce lundi 14 octobre 1974. Il est 10h et bientôt, McLaren aura l'idée de génie qui changera la face musicale du royaume, puis du monde. Il est 10h, l'heure H de mon histoire. Malcolm McLaren est un jeune homme pressé en ce mois d'octobre 1974. C'est ce qu'on appelle un touche-à-tout. Il ne se fixe ni limite, ni contrainte. Il entre dans sa boutique derrière quelques jeunes filles venues tout droit des beaux quartiers et qui, certainement, viennent s'encanailler ici avec ceux qui prônent la différence. S'habiller ici pour elles ressemble à un acte de rébellion, qu'elle soit vestimentaire ou sociale. Il les regarde, du haut de son mètre 70, les reluque plutôt même, puis se détourne et s'en va voir comment Vivienne a mis en place le magasin. Ce sont ses créations à elle qui sont mises en lumière ici. Et ce qu'elle veut faire, c'est vendre du choquant, aller à l'encontre des carcans imposés par ceux qui sont aux manettes. Vivienne, c'est la révolutionnaire pure du couple. Lui, il est avant tout pragmatique. Se faire du fric avec la révolution. Eh ben pourquoi pas? Et pour ça, il a une petite idée derrière la tête, mais qu'il peine encore à concrétiser. Les jeunes filles de tout à l'heure, vêtues pourtant de leur uniforme scolaire, ont sélectionné quelques articles en cuir qu'elles sont parties essayer dans les cabines. Elles ne cessent de rigoler, ce qui l'agace profondément. Il est un peu tendu en ce moment, Malcolm. Son dernier plan en date vient de tomber à l'eau. Pour mener la révolution, il a choisi son arme de prédilection, la musique. Il veut lancer un groupe qui prônerait le bordel et l'insurrection, et qui choquerait. Encore faut-il le trouver. Il y a 3 ans, il a acquis les locaux commerciaux qu'ils utilisent aujourd'hui avec cette fameuse enseigne SEX pour sexe. Si maintenant son credo, c'est fétichisme et provocation, au départ, la devanture était frappée d'un Let It Rock, beaucoup plus consensuel. Cet endroit est devenu le QG des Teddy Boys, des jeunes garçons qui écoutaient du rock et qui portait des perfectos. Mais il s'en était lassé, Malcolm, regrettant leur influence encore parfois trop bourgeoise. Non, lui, il voulait aller plus loin, plonger dans les profondeurs du rock, et tant pis si c'est sale, tant pis si c'est glauque. Voilà que les jeunes filles ressortent des cabines et reposent en vrac sur les portants les affaires qu'elles ont essayées. Il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche que déjà Vivienne, telle une lionne, sort en furie du bureau et les met dehors à coups de pompe. Ah ben voilà une commerçante née, se dit Malcolm en souriant. Pas question d'en rire, ce serait un coup à se frotter aux fauves et il n'en a guère envie. L'histoire, elle, a suivi son cours. Afin d'accompagner et soutenir la nouvelle lubie de sa compagne Vivienne, qui s'est mise en tête de créer des vêtements provocants, ils filent tous les deux direction New York City pour la National Boutique Fair. Le concept de la boutique tel qu'il existe aujourd'hui est né à New York. La révolution passera par de la provocation. Des matières normalement dévolues à la chambre à coucher et pire, des ensembles bien courts, accompagnés d'accessoires qui feront bondir les petits bourgeois de la capitale du royaume. Ce voyage vers le Nouveau Monde a lieu en août 1973. C'est à ce moment précis que la nécessité d'avoir un groupe comme instrument de propagande politique saute aux yeux de Malcolm. Il tombe raide dingue de la génération musicale en formation outre-Atlantique. Des jeunes en perfecto, qui frappent sur les guitares plus qu'ils ne jouent avec les cordes. Et parmi eux, une formation va se détacher et le convaincre de passer à l'action. Les New York Dolls. Entre McLaren et le groupe issu de la Big Apple, le coup de foudre a été immédiat. Dans la droite veine du Velvet Underground et des Stooges, ils ont lancé les premières mesures du punk rock. Et Malcolm a tout de suite compris qu'il tenait là sa bande de révolutionnaires, armée de guitares. Il s'était donc improvisé agent ou impresario, comme vous voulez, et il en était ravi. Mais voilà qu'il est tiré de sa rêverie quand un jeune mec entre dans la boutique. Ah, il le connaît. Mais il fait semblant de ne pas le voir, la tête plongée dans une hypothétique comptabilité. Il est sympa ce gamin, mais voilà déjà des mois qu'il le saoule avec son groupe de nullos qui cherche un agent pour les représenter. Le voilà absorbé par sa lecture, comme en train de comptabiliser les premiers chiffres de vente, qui ne sont pas encore là puisque le magasin vient d'ouvrir. Mais ça, le gamin qui traîne entre les rayons n'en sait rien. C'est hors de question. Il n'a pas le temps de gérer une autre bande de tocards. Les New York Dolls lui donnent déjà suffisamment de fil à retordre. Cette petite bande, plutôt douée, se plaint des choix de salles de concert, des choix de tenues qu'il leur impose et surtout de la commission qu'il prélève sur les contrats. McLaren a déjà les crocs acérés du loup qui n'a pas de pitié. Ses services se payent cher. Mais voilà maintenant que le gamin approche et le salue. Pas le choix. Il va falloir le remettre à sa place. Mais là encore, le fauve Vivienne surgit de son bureau. Mais cette fois, en apercevant le jeune homme, se transforme en chat. Contrairement à Malcolm, elle aime bien ce petit. Et elle pousse son compagnon à lui accorder une chance. Il faut dire, à la décharge du jeune homme d'affaires, que le CV du musicien en herbe, si on peut le qualifier de musicien, n'a rien d'extraordinaire. Il est chanteur de son groupe et pourtant sa voix n'a rien de celle d'Elvis Presley. Mais il est le leader d'une bande de musiciens qui gratouille des reprises rock. Son nom, c'est Steve Jones. Il est rejoint dans la boutique par le batteur du groupe, Paul Cook. Malcolm comprend qu'ils ont un problème. Ils sont à la recherche d'un bassiste. Le leur les a lâchés et de toute façon, ils n'étaient pas au niveau. Malcolm sourit et se demande bien ce que peut représenter le manque de niveau pour des musiciens qui n'en sont pas. Mais soit. Pour faire plaisir à Vivienne, qui lui lance un regard noir à balles réelles dans sa direction, il accepte de leur filer un tuyau. Un de ses vendeurs s'essaie à la basse depuis un petit moment et il a le sens du rythme. Il s'appelle Glenn et par un heureux hasard, il travaille dans l'arrière-boutique aujourd'hui. Il trie des cartons. Vivienne l'appelle pour qu'il le rencontre. Le jeune gars se lie d'amitié presque instantanément avec les deux jeunes qui cherchent un musicien pour leur groupe. Le courant passe, bien qu'il n'ait pas du tout le même univers. Lui est fan des Beatles et de Bowie. Eux, ils préfèrent écouter du rock bien plus crasseux. Cependant, l'idée lui plaît et il accepte de les rejoindre. Il apportera au quatuor une certaine forme de rigueur et d'expertise musicale. Ces trois-là, bientôt, formeront la colonne vertébrale d'un groupe que Malcolm va créer de toutes pièces. Les Sex Pistols. Voilà. Voilà le coup de génie de McLaren, c'est ça. Former de toutes pièces un groupe grâce à des musiciens qui ne savent pas jouer de musique. Le mouvement punk est sur le point d'exploser à la face du monde et de renverser la table à grands coups de Doc Martens. Notre histoire commence quelques mois après l'ouverture de ce nouveau magasin particulièrement en marge de la bien-pensance de l'époque. Nous nous trouvons maintenant au cœur d'un été chaud et particulièrement animé. Nous sommes au beau milieu du mois d'août 1975. Depuis quelques mois déjà, nos jeunes gars supervisés par Malcolm ont créé un semblant de groupe du nom de The Strand. Il s'est déjà produit sur scène pour la première fois. Ce concert a été une véritable catastrophe à tous les niveaux. Mauvaise ligne rythmique, un chanteur qui ne tient tellement pas la route qu'il est incapable de chanter, un guitariste qui porte des lunettes en cul de bouteille et qui n'a aucune présence physique. McLaren était sorti de là avec la gueule de bois, sans même avoir touché à une goutte d'alcool, c'est dire. Depuis lors, il a longtemps cherché la bonne solution et a fini par la trouver. Déjà, il a fait virer ce guitariste qui ne colle pas avec l'image du groupe. Check. Ensuite, il a convaincu Steve Jones, le leader du groupe, qu'il doit laisser le micro à un autre car il ne sait pas chanter. Ça n'avait pas été difficile. Check. Pour autant, Malcolm McLaren n'a pas souhaité se séparer du gamin auquel il a fini par s'attacher. Mais ça tombe bien. Pas besoin de le renvoyer. Une place vient de se libérer, celle de guitariste. Il n'a jamais touché un manche de gratte. Quelle importance après tout. Ce qui compte, c'est le style. Alors McLaren, qui possède encore une guitare ayant appartenu à son groupe précédent, l'a confiée à Steve, qui, disons-le, n'avait pas été super rassuré. Ils sont rassemblés pour répéter dans un hangar loué à un prix défiant toute concurrence par Malcolm. Évidemment, un type s'est pendu ici, il y a quelques jours. Steve répète encore et toujours le même riff, sous l'effet de drogues diverses, principalement des amphétamines. Oui, Steve Jones est tombé dans une spirale infernale. Révolutionnaire, certes, mais infernale. Nous voilà donc maintenant en plein milieu de cet été chaud à Chelsea. Malcolm McLaren va voir les trois membres qui restent dans le groupe de Strand. Il leur a trouvé, par l'intermédiaire d'un de ses potes, un chanteur. Et pas n'importe lequel. Un bien dégénéré comme il les aime. Il s'appelle John. John Lydon. C'est un mec aux cheveux aux couleurs changeantes qu'il a repéré le jour où il s'est pointé arborant un t-shirt représentant les visages du groupe Pink Floyd. Ouais, rien d'original, vous allez me dire jusque-là. Oui, mais ce n'est pas tout. Il avait troué les yeux de chacun des musiciens et inscrit au marqueur noir au-dessus du nom du groupe en lettres capitales « Je déteste ». Ajoutez à cela qu'il arborait de grosses épingles sur son pantalon, des chaussures pourries, des dents qui feraient peur à n'importe quel dentiste, un regard de chien fou et une dégaine globalement unique. Vous avez là un portrait aussi fidèle que possible de qui est John Lydon. Malcolm a décidé de lui faire passer une audition. Il s'en va donc maintenant l'annoncer au groupe. Non, les avis sont partagés. Steve connaît ce gars bizarre de vue et trouve d'emblée que l'idée n'a aucun sens. Selon lui, il n'apportera à l'avenir que du bazar aussi sûr que le Père Noël apporte des foutus cadeaux. Mais leur manager, lui, en a décidé autrement. Audition, il a réclamé. Audition, il aura. Le soir même de cette entrevue, dans la boutique sexe, néon allumé et rideau fermé, le jukebox de la boutique crache les premières notes du morceau « I'm 18 » d'Alice Cooper. Le riff de guitare se lance, et sur une scène complètement improvisée, face à son « jury du soir », John Lydon rate les premières mesures. Bousculé par les autres membres, il ne se lance qu'après plusieurs secondes d'hésitation pour offrir une performance totalement surréaliste. Bien qu'il bouffe littéralement tout l'espace par son charisme, sa présence scénique n'élude pas une incapacité à bien chanter évidente. « Ce mec n'est pas chanteur !» s'exclame Steve entre deux éclats de rire. Ce à quoi Malcolm, une cigarette en main, répond du tac au tac « Et toi, t'es pas plus guitariste ?» Ambiance. Déjà, on devine que McLaren entretient un climat qui rendra les Sex Pistols tellement à fleur de peau. Divisé pour mieux régner est son credo. La révolution à l'extérieur, certes, mais aussi à l'intérieur du groupe. C'est un véritable chaos à peine organisé. Voilà comment le manager envisage sa bande de joyeux lurons. Et alors même que les trois autres membres du groupe sont tous d'accord pour dire que Johnny n'a pas sa place, il l'impose. C'est certainement son premier coup de génie. Il a vu avant tout le monde le potentiel de ce gars bizarre aux cheveux verts et au t-shirt provocateur. Comme condition pour intégrer le groupe, Johnny demande un changement de nom. The Strand, c'est pour jouer dans les pubs branchés du cœur de Londres. Lui, il veut pas de ça. Il veut plus provocateur, plus glauque. Malcolm les met tous d'accord sur le nom Sex Pistols. L'aventure peut commencer. Le groupe commence à répéter. Et à faire la fête. Sex, drugs and rock'n'roll à la sauce stéroïdée. Il fédère un public de jeunes en déroute, qui se sentent perdus face à la musique rock actuelle. Censé représenter les ados et les jeunes adultes, cette dernière est confisquée maintenant par les plus de 25 ans. Vous imaginez ? Alors que les Sex Pistols, eux, s'adressent à ceux qui sont trop à la marge pour entendre le message envoyé par Bowie ou par les Stones. Le quatuor a des niveaux totalement disparates. Seul le bassiste surnage. Le batteur, lui, frappe en rythme et sans plus guère de garantie. Et que dire de Jones à la guitare et de Johnny au chant ? D'ailleurs, on lui change son nom. De John Lydon, il devient Johnny Rotten. Une jolie référence à sa dentition pourrie. Une idée qui vient tout droit de Steve Jones. Le chanteur déteste le bassiste, dont les influences sont beaucoup plus soft. Mais sans ce dernier, aucune composition, aucun début de mélodie. Il tient le groupe à bout de bras et ses notes sont simplement modifiées, les paroles transformées par un Rotten en transe dès qu'il prend le micro. L'épreuve du feu, elle, n'est pas encore arrivée. Pas de concert prévu. C'est le bassiste qui étudie au St. Martin's College de Londres qui leur trouve le premier lieu de concert. Oh, certes pas le plus huppé des établissements, mais reste tout de même un lieu d'études très respectable. Comme c'est souvent le cas à l'époque, la section musique du Bahut a monté un groupe de rock. Ils se produisent en journée le 6 novembre 1975 et cherchent une première partie. Le bassiste se propose. Dit qu'il joue du rock avec des copains depuis quelques mois et arrange le coup, l'air de rien. La veille, Steve Jones vole un ampli dans une salle de concert. Il avait déjà fait le coup après un show de Bowie en 1973 en volant un micro et s'était fait prendre la main dans le sac. La légende raconte même qu'il restait dessus du rouge à lèvres de la rockstar. La grande classe. Comme c'est de coutume, le groupe qui va jouer en tête d'affiche, tout est relatif, comprenez-moi bien, annonce aux Sex Pistols qu'ils devront jouer avec leur matériel et apporter le leur. Discussion et petite échauffourée, mais finalement, ok, les Pistols joueront sur les amplis du groupe phare. Le problème qui survient le soir même, c'est que personne encore ne les connaît. Le public s'énerve et le show tourne au pugilat. À peine le groupe déjanté a-t-il pu jouer quelques morceaux inédits que les fameux amplis de presse sont saccagés. Les autres musiciens, accessoirement propriétaires, sont ahuris et débranchent les prises. Fin du spectacle. Assez mauvais musicalement et très bruyant, les Sex Pistols n'ont rien prouvé ce soir-là. Oh, si ce n'est deux choses. De un, ils savent se battre sur scène puisque les autres viennent aussitôt leur réclamer des comptes. Et de deux, ils sont totalement incontrôlables. Malcolm McLaren n'a aucune idée de la bombe qu'il a participé à créer. À l'écoute de leur première composition et devant l'ampleur du phénomène qui commence à percer à Chelsea et dans d'autres quartiers de Londres, la maison de disques EMI, excusez du peu, leur fait signer un contrat à 40 000 livres. Malcolm va perdre le contrôle au pire moment. Les musiciens déjantés, qui passeront direct sur la très policée télévision britannique, iront jusqu'à appliquer à la lettre le mot fétiche de leur manager. Révolution.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se penche sur un phénomène musical que jamais le rock n'a connu auparavant, les Sex Pistols. Drivés par leur manager, Malcolm McLaren, Steve Jones, Johnny Rotten et les autres, retournent les scènes confidentielles du Londres qui, habituellement, se perd dans les références royales et aseptisées. Cet épiphénomène, qui prend de l'ampleur, va finir par attirer de grands labels, dont EMI, qui leur fait signer un contrat et leur offre l'opportunité de s'exprimer en direct à la télévision. Malcolm McLaren, qui leur a demandé de bien se tenir, ne va pas être déçu. Le présentateur non plus. Nous sommes le 1er décembre 1976, sur le plateau de l'émission Today, émission à la portée régionale du Grand Londres, mais à l'influence significative. Le présentateur Bill Grundy, journaliste dont la carrière n'est plus à faire, est particulièrement sur les dents. La veille, le groupe Queen, qu'il devait recevoir, a annulé sa participation. Freddie Mercury devant en urgence se faire opérer des dents. Sérieux ? Quoi, c'était ça leur excuse ? Dans son fauteuil, attendant ses invités du jour, il enrage ce journaliste aux dents longues. Et au lieu du groupe à la mode, il a hérité des Sex Pistols, une bande de jeunes totalement dégénérés. Il déteste l'idée de les recevoir. Il ne fait pas du journalisme pour ça. Les voilà d'ailleurs, qui arrivent sur le plateau. Et stupeur, au lieu d'accueillir les quatre membres du groupe, les voilà qui débarquent en bande, à 8 ou 9. Ils envahissent les sièges pour s'asseoir. Une partie reste debout. On rigole, on danse. Le direct n'est pas encore lancé que c'est déjà le bordel. Le style dénote totalement entre les jeunes en haut troués et en jeans percés d'épingles et le costume impeccable du présentateur. « Bill !» Prépare-toi direct dans 3, 2, 1, que la fête commence. Le présentateur, tendu comme une ficelle prête à craquer, présente le groupe en leur balançant un premier petit tacle. Ils sont aussi ivres que moi. Puis la régie balance le clip tout neuf du titre « Anarchy in the UK ». 3 minutes de pur punk, durant lequel tout le pays est remis en cause et copieusement insulté. la genèse même de ce mouvement musical. Cela tranche particulièrement avec l'ambiance feutrée du plateau. Le climat western qui s'est installé, lui en tout cas, est particulièrement entretenu par Bill Grundy. Il demande au groupe si le fait de toucher 40 000 livres d'EMI n'était pas une hypocrisie caractérisée au regard de ce qu'ils défendent dans leur musique. Steve, Johnny et les autres commencent à se tendre sérieusement, au point d'exploser. Laissez-moi vous rappeler à ce stade un élément de contexte non négligeable. Les soirs de semaine à la télévision, le Royaume-Uni a interdit fermement l'usage de mots et d'insultes. Pas un putain, pas un malotru ne peut sortir d'aucune bouche. Pas de bol pour l'émission Today. Leur présentateur vient de réveiller la machine à blasphème et à insultes. Quand le vieux Bill demande à Steve ce qu'ils vont faire de cet argent, le jeune guitariste répond malicieusement que tout a déjà été dépensé en alcool. Stupeur en régie, chez les cadreurs. Mais Grundy, lui, ne se démonte pas. Pire, il insiste. Il se questionne sur le sérieux d'une telle formation musicale, allant jusqu'à les comparer à Mozart, Bach ou Brahms. Johnny Rotten prend la parole sans sourciller, les qualifiant ironiquement de modèles, ajoutant que ses compositeurs l'excitaient. Délaissant le terrain glissant sur lequel il est, le présentateur se tourne vers les deux jeunes femmes qui sont là sur le plateau avec les membres du groupe. L'une d'elles, à la fin de l'échange, stipule qu'elle a toujours rêvé de le rencontrer. Le présentateur lui répond qu'il aimerait la revoir, pourquoi pas après l'émission. Steve Jones explose et insulte Bill Grundy. Sale con, vieux pervers. Toute la fin du show n'est qu'une escalade de provocation entre les deux parties. Lors du générique de fin, les jeunes dansent et Bill Grundy, dépassé, lâche un « merde ». Les cinq dernières secondes des échanges sont lunaires. Voici leurs propos. Jones attaque en premier. « Espèce de sale con, sale vieux ». Grundy répond « Eh bien, continuez, chef, continuez. Continuez, vous avez encore 5 secondes. Dites quelque chose de scandaleux. » Et Jones continue « Sale bâtard !» Grundy l'encourage. « Mais continuez encore !» Jones « Sale connard !» Grundy « Quel garçon intelligent !» Jones « Quel putain de pourri !» Et c'est la catastrophe. De retour dans leur loge, les jeunes sont accueillis par un Malcolm McLaren, pâle comme la mort. L'effet boule de neige va être immédiat. Vous l'imaginez bien, les tabloïds s'emparent de l'affaire avec délectation. Mais alors que McLaren est persuadé que la carrière du groupe est terminée et que toutes les conséquences seront pour sa pomme, il n'en est rien. Alors certes, EMI jette l'éponge et revient sur l'accord établi. 40 000 livres qui leur passent sous le nez, ça fait mal. Mais les journaux prennent tous parti contre le présentateur de Today, qui sera même suspendu pendant un certain temps pour son comportement jugé inacceptable. Après la diffusion de l'émission, le groupe gagne donc en partisans, devient une attraction et un véritable phénomène. Tellement que le label A&M Records entre en négociation pour beaucoup plus d'argent et signe un contrat avec McLaren. C'est l'époque de l'enregistrement du seul et unique album studio du groupe, Nevermind Bollocks, Here's the Sex Pistols. La machine semble définitivement lancée, mais les Sex Pistols ne sont jamais bien calmes et réservent toujours des surprises particulièrement crues et inattendues. La nouvelle polémique va se dérouler en deux phases. En premier lieu, en mars 1977, le single « God Save the Queen » sort en prévision du jubilé de la reine. Une reprise de l'hymne national ? Pas tout à fait. À leur sauce et sous couvert des saintes paroles de la patrie, les Sex Pistols dénoncent le régime politique comme étant d'une gouvernance fasciste. Ça, c'est un sacré coup de pub. Le groupe s'apprête à entrer en studio. Les compositions sont prêtes et sont presque toutes signées du bassiste. Il se fait éjecter, alors même qu'il est là depuis le départ. Il faut dire que, comme le dit si bien Johnny Rotten, il parle tout le temps des Beatles et se lave les pieds. Pas super punk, vous en conviendrez. Mais il savait jouer de la musique. Du coup, qui va bien pouvoir le remplacer ? Le chanteur impose son meilleur ami et grand fan des Sex Pistols, un dénommé Sid. C'est en réalité le nom de son hamster. Et pour compléter le tout, on l'affuble du nom de famille Vicious. Vicieux donc. Alors, vous allez me dire, remplacer son compositeur en titre et seul musicien de formation entraîne nécessairement le fait d'intégrer le même profil. Bien, pas du tout dans le cas présent. Au contraire, Sid n'a jamais tenu une basse de sa vie. Il fait même semblant de jouer. Et vous en conviendrez, c'est tout de même un peu particulier. L'idée de Johnny Rotten est en réalité assez simple. Toujours dans l'idée d'être en révolution, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe, il intègre enfin dans la bande un allié. Deux contre deux, donc. C'est en réalité, sans qu'il le sache, déjà le début de la fin pour cette formation, qui, de toute façon, ne pouvait guère perdurer dans le temps. Il ne faut pas être un devin pour le savoir. L'accord avec le nouveau label, en plus, tombe à l'eau. Après un désaccord sur sa part de revenus générés, Sid Vicious, le nouveau venu, se décide à tout défoncer dans les bureaux du label. Excellente idée. L'accord est donc jeté à la poubelle. Mais McLaren ne s'en fait pas. Ils sont beaucoup à vouloir signer les Pistols. C'est finalement Virgin qui frappe à la porte de Malcolm McLaren avec un chèque de 120 000 livres en échange de la réalisation d'albums. Vous imaginez, trois fois plus d'argent que ce que proposait EMI, qui d'ailleurs, pour sa part, hérite d'un morceau particulièrement salé dans l'album enregistré tant bien que mal dans les studios londoniens mis à leur disposition. Vicious, dans son incroyable capacité musicale toujours proche du néant, ne va enregistrer que deux des morceaux. Le reste des lignes de basse est réalisé par Steve, normalement guitariste. L'ensemble donne un incroyable mélange de morceaux, tous plus bizarres les uns que les autres. Ils ne sont pas homogènes. Les mélodies se répètent souvent, le rythme n'est pas toujours bien tenu. Mais Nevermind the Bollocks est un véritable chef-d'œuvre pour tous ceux qui attendaient un renouveau du rock et la création d'un nouveau mouvement. McLaren a gagné. Son groupe prône la révolution dans ses concerts, qui se terminent rarement bien. Cet album va se vendre très vite, puis le soufflet va finir par retomber. La pochette jaune et rose va mettre 10 ans à devenir un disque d'or, une éternité dans le monde de la musique. Et alors que tous sentent déjà des ailes leur pousser dans leur dos et que la voie du succès enfin semble se dégager, il y a déjà le temps de la déchéance et de la séparation. 3 ans après sa formation, les ennuis vont se multiplier. Mais comment imaginer se renouveler quand on vire celui qui compose les morceaux ? C'est toute la question insoluble que les musiciens qui restent dans le quatuor vont devoir se poser. Avec fracas, comme à leur habitude, le temps des ennuis va faire les choux gras de la presse du royaume, pendue à chaque petit scandale qu'elle peut exploiter. Et l'ère du groupe punk, bientôt, va devenir irrespirable.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H vous plonge dans les prémices du mouvement punk en Angleterre au travers de l'histoire d'un groupe très loin d'être comme les autres, les Sex Pistols, formé d'un quatuor qui est musicien comme Jean-Sébastien Bach et styliste, c'est-à-dire pas du tout, leur manager prône une révolution aussi vive à l'extérieur qu'à l'intérieur de la bande. Cette tension permanente va conduire à certains départs, dont celui du bassiste historique, également compositeur. Et cela va, après l'enregistrement de leur premier album, devenir très dommageable. Nous sommes le 14 janvier 1978 à San Francisco. Plus particulièrement, sur la scène du Winterland Ballroom, qui accueille ce soir les Sex Pistols. Englués dans une tournée américaine qui ne cesse d'accentuer les scissions entre eux, la date d'aujourd'hui est une véritable torture pour tous. Le label américain du groupe, Warner, pensait vivre une tournée assez tranquille. Grosse erreur. Sid Vicious n'est plus capable de rien faire, englué dans ses problèmes de drogue qui le transforment en légume. Le batteur et Steve font bande à part et Malcolm McLaren, lui, n'adresse plus un mot à Johnny Rotten. Pourquoi ? Il ne le sait vraiment, tant les tensions sont vives depuis longtemps entre tous. Mais ce soir, le chanteur en a ras-le-bol et quitte à claquer la porte, il décide de le faire avec fracas. En première ligne, les spectateurs du soir, eux, ne sont pas prêts. Tout le set se déroule comme prévu. Mais au moment du rappel, les cheveux transpirants et totalement en transe, Johnny prend son micro et s'exclame « Vous aurez un rappel et un seul rappel parce que je suis un bâtard paresseux. » Ambiance. Le morceau choisi n'est pas un hasard. C'est une reprise des Stooges qui s'appelle « No Fun » ou si vous préférez, « Pas de plaisir ». Tiens donc. La guitare est hachée. Vicious semble presque endormi sur sa basse. Il ne joue pas. Et le batteur tente de tenir l'ensemble à bout de bras. C'est le capharnaüm complet. À la fin du morceau, Rotten s'agenouille sur la scène. Il s'exclame. C'est pas amusant. Pas amusant. C'est pas amusant du tout. Pas amusant. Avant d'ajouter un lapidaire. Avez-vous déjà eu l'impression que vous avez été trompé ? Bonne nuit ! Le mal-être chez lui est profond. Les tensions le rendent hystérique. Il pense plusieurs fois au suicide. Son ami Sid n'a plus rien d'un être humain, selon ses propres mots. Les autres lui tournent le dos. C'est décidé, c'est terminé. C'était son dernier concert avec les Sex Pistols. 4 jours plus tard, alors que Malcolm, le batteur, et Steve s'envolent vers Rio pour y travailler dans un cadre de vacances, que Vicious a été hospitalisé d'urgence à New York, Johnny accorde dans la même ville une interview à la presse. Interview dans laquelle il annonce la séparation du groupe. Fin d'histoire. Enfin, pas tout à fait. Des enregistrements auront lieu à droite à gauche. Vicious, sorti de l'hosto, chante la reprise de My Way d'une manière telle que la reprise va entrer dans la légende. Mais Rotten, lui, arrête totalement sa participation. Sans lui, le groupe n'a plus vraiment de raison d'être. Et c'est de fait sa mort qui s'annonce. Elle sera effective au mois d'août. Johnny Rotten reprend son nom de naissance et forme un nouveau groupe. Vicious, lui, déménage aux États-Unis. Il change de manager et sort un album solo. Les autres se mettent en sommeil quelque temps. Pour le très perturbé Sid Vicious, les ennuis ne font que commencer. En 1979, sa petite amie, qu'il allait épouser, est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, tuée d'un coup de couteau. Accusé du meurtre, il clame son innocence. Tous les deux étaient sous l'influence de drogue au moment des faits. Relâché sous caution, il ne se décide pas à se calmer et fracasse une bouteille de bière sur la tête du frère de Patti Smith lors d'une rixe. Case prison cette fois. Libéré après une cure de désintoxication un peu raide, Vicious organise une petite fête le 1er février 1979. Il est retrouvé mort le lendemain matin, victime d'une intoxication à l'héroïne. Les circonstances de sa mort restent floues. Certains pensent qu'il a été assassiné. Cette mort fera entrer un peu plus les Sex Pistols dans la légende, bien que le groupe fut déjà séparé. Après tout, la plupart des groupes du Panthéon sont passés par là. Les Stones, AC/DC, Nirvana et beaucoup d'autres. C'est finalement un côté qui rapproche le groupe de punk aux autres formations du rock alors que tout le reste les oppose. Dans le courant février de 1979, un procès s'ouvre opposant les membres survivants à leur ancien manager, Malcolm McLaren. Ils obtiennent le versement des droits musicaux et l'impresario, lui, bourré de dettes, s'engage dans une carrière solo qui aura son petit succès dans les années 1980. Les membres du groupe, eux, se séparent et doivent digérer ce qu'ils viennent de vivre. Plus de 20 ans après leur premier succès, une tournée de réunification est annoncée à la surprise générale en 1996. Le quatuor original a mis de l'eau dans son vin et empoche un joli chèque au passage. Ils feront d'autres apparitions au début des années 2000. Une réédition de leur album légendaire sera lancée par le label Universal avec leur signature. Les quatre membres historiques sont, à l'heure où je vous parle, retirés du milieu musical. Malcolm McLaren, lui, est décédé déjà depuis quelques années. Le temps file pour tout le monde, y compris pour les rockers qui ne sont pas les derniers à tirer sur la corde. Les Sex Pistols, certainement, sont le meilleur exemple. La sortie récente d'une série intitulée Pistols a ravivé les tensions entre John Lydon et les autres. Il s'est plaint de ne pas avoir été intégré à la création. Les autres répondent qu'il a pourtant été convié. Des embrouilles de mecs rebelles écorchés vifs, encore et toujours. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de Johnny Rotten, l'iconique chanteur aux cheveux verts, bleus ou rouges, suivant son humeur du jour, lors d'une interview à la suite de la séparation du groupe. Le punk, c'est l'indépendance d'esprit. Il n'y a pas d'uniforme lié à ça. C'est une disposition mentale qui vous appartient. À lui seul, il continue d'incarner l'essence même d'un mouvement qui, au cœur des années 1970, a su résonner dans le cœur d'une jeunesse en perdition. Voilà donc pour ce récit un peu punk que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.